À quoi tu penses?
Tu sais.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, une émission consacrée à des structures médico-sociales locales qui ont été ou sont en difficulté. La crise à la résidence Edith Augustin et à la crèche familiale qu'un réalisateur poitevin a suivi. On reviendra avec lui sur ce tournage en seconde partie d'émission. Et tout de suite, on parle d'une autre résidence, celle de Larnay Sagesse, en compagnie de Brigitte Polia qui est monitrice éducatrice. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes accompagnée de Daniel Desselier du syndicat Sud Santé Sociaux et Solidaires. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux pour nous parler des difficultés de cette résidence. Peut-être, Brigitte Polia, d'abord nous présenter cette résidence qui accueille donc des personnes en situation de handicap.
Oui, donc c'est un établissement médico-social qui accueille donc des personnes à handicap sensoriel. Ça, c'est le point commun pour tous. Et avec effectivement des troubles du comportement, des troubles associés, ce qu'on appelle des troubles associés. Leur handicap sensoriel, ça c'est aussi donc ce sont des personnes aveugles, sourdes et avec aussi malvoyants, malentendants et peut-être et aussi sourds aveugles en même temps. Enfin voilà, il y a plein d'associations comme ça et des troubles du comportement.
Et donc, il y a différents pôles, en fait, au sein de cette résidence.
Oui, il y a donc il y a trois établissements, en fait. Il y a un établissement, un foyer de vie, où il y a sept résidents, un FAM, un foyer d'accueil médicalisé, 47 résidents, et puis un EHPAD.
Et donc, depuis plusieurs années, vous constatez un gel, en fait, de vos dotations et, d'un autre côté, une explosion des coûts. Qui est-ce qui finance une telle résidence?
Donc, il y a le département et l'ARS. Alors, le département a 70% et l'ARS a 30%.
Et de l'autre côté, oui, donc une explosion des coûts. Alors ça, on le rencontre dans tout le secteur médico-social. Je peux peut-être m'adresser à vous, Daniel Desselier. C'est quelque chose qu'on constate partout.
En effet, l'augmentation vient de tout ce qui est sur les dépenses des fluides, puisque ça a nettement augmenté. La question aussi des prix de journée qui sont de plus en plus difficiles à boucler. Et puis, il y a aussi d'autres problèmes qui se posent au secteur. C'est la question de la difficulté de recrutement dans ces établissements et donc la question des niveaux de rémunération des professionnels.
Et puis les quelques révalorisations qui ont eu lieu, heureusement d'ailleurs, mais qui sont à prendre en compte aujourd'hui.
Oui, alors il y a eu effectivement le Ségur, mais normalement, parce que tout le monde ne l'a pas non plus, même dans chez moi, dans mon établissement, tout le monde ne l'a pas. Alors on espère que bientôt tout le monde pourra l'avoir.
Mais si le budget reste le même, c'est compliqué pour payer tout le monde. Est-ce que aujourd'hui, pourquoi faire cet appel, cette mobilisation aujourd'hui, sachant que ça fait plusieurs années effectivement que les taux se resserrent?
Oui, c'est effectivement. Alors aujourd'hui, on en est arrivé à un point où donc il y a quand même plus de 550 000 euros de dette, et donc il y a des budgets qui ont été restreints au niveau des achats, des gros achats. Il y a eu des gels de postes. Il y a eu, on peut pas non plus, supprimer des postes. Plus que ça, déjà c'est compliqué parce que c'est quand même une institution qui accueille des personnes handicap sensoriel où il y a un accompagnement spécifique dans la communication surtout, et où Larnay a justement aussi toute une histoire par rapport à cet accompagnement, toute une expérience qui est là.
Ça, reconnu depuis plusieurs siècles maintenant.
Presque deux siècles, oui.
Donc c'est cet accompagnement-là, il risque d'en pâtir si jamais il fallait réduire encore les effectifs.
Ah oui, ben oui, là on peut pas, c'est pas possible déjà. C'est, alors on est dans une période où effectivement, comme disait Daniel, où c'est difficile, le recrutement est difficile parce que les salaires sont très bas, où les personnes, y a un turnover important. Donc il y a tout un accompagnement des professionnels qui arrivent, à qui il faut apprendre ces différentes communications, ces différents langages, et ça demande beaucoup d'énergie. Et quand un turnover qui est actuellement, c'est compliqué, ça rajoute encore plus de fatigue.
Quelles sont les conséquences? J'allais vous demander l'épuisement tout simplement des
oui,
salariés.
Voilà, oui, les salariés sont épuisés par effectivement ce fonctionnement qui est là depuis, je dirais, maintenant 2-3 ans, mais où il y a effectivement des postes qui ne sont pas pris. Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, moi, ça fait presque 25 ans que je suis dans cet établissement, et j'ai jamais vu autant de CDI non remplis, quoi. Voilà, enfin, non.
Oui, des postes qui ne sont pas pourvus.
Voilà, des postes non pourvus, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a déjà une conséquence sur les résidents eux-mêmes?
Ça veut dire, enfin, effectivement, ça veut dire que quand nous, on prend plus de temps pour pouvoir former, ça veut dire qu'on a moins de temps aussi auprès des résidents. Et c'est vrai aussi qu'on nous demande aussi de plus en plus de choses administratives, parce qu'il faut tout justifier tout le temps. Où on est à la fois devant l'ordinateur et sur le terrain, mais où on est entrecoupé entre les deux, et c'est quelque chose de d'épuisant pour les salariés. Voilà.
Alors, on connaît la crise aussi pour la prévention spécialisée, qui est aussi financée principalement par le département. J'imagine qu'au niveau du syndicat Sud Santé Sociaux, vous avez alerté le département par rapport à ces difficultés.
Ça, on a fait plus que de l'alerter. On l'a sollicité, on attend des réponses. Et là, on est dans l'attente de la séance du 21 juin, puisqu'on sait qu'il y a un fonds de 5,9 millions qui n'a pas été dépensé. Paraît-il qu'il n'est pas totalement fléché. D'aucuns disent qu'il est déjà fléché. Pour nous, ça va être une opportunité aussi d'essayer de trouver la solution des 250 000 euros manquants pour la prévention spécialisée. Et la situation de l'Arnais, sagesse se posant, on va aussi retourner vers le conseil départemental, pour les informer et les alerter sur cette situation dramatique. Et on espère que ce sera les seuls établissements qui sont visés par, soi-disant, d'après le département, des contraintes budgétaires, et d'après nous aussi, qui sont soumis à des choix et des orientations politiques.
Il y a eu une réunion ce matin entre votre président et quelqu'un du département, a priori. Est-ce que vous avez eu des retours déjà ?
Non. Effectivement, oui, la direction devait rencontrer M. Pichon du conseil départemental. Mais non, je n'ai pas de retour par rapport à ça. Alors, j'espère que ça va avancer, parce qu'effectivement, il y a un manque de finances important, et tout est lié au conseil départemental, quoi. Je veux dire, on signe, en fait, ce sont des contrats, on appelle ça des CEPOM, qui sont signés tous les 5 ans. Donc le dernier, il a été signé en 2019. Et depuis, ça veut dire que depuis, on n'a pas... il y a eu une inflation importante, là, ces 2-3 dernières années. Et ce n'est pas possible, quoi, de suivre... De faire la même chose qu'avant, quoi. Ce n'est pas possible.
En tout cas, Gilles-François Bougot, ça c'est lui... chez nos confrères de la Nouvelle République et Centre Presse, il est ressorti très satisfait de cette réunion, donc le président de l'Arnais Sagesse. Il affirme qu'ils ont clairement montré une volonté de nous aider, donc peut-être que ça ouvre une porte, en tout cas. Pour vous, quels vont être, dans ces prochains jours, prochaines semaines, vos moyens d'action pour essayer d'avoir des solutions ?
Eh bien, le 21 mai, on a 21 juin...
On aura compris.
Le 21 juin. Le 21 juin, il y a une mobilisation d'organiser devant le conseil départemental. Avec la prévention, on sera là comme on a été là pour le 4 juin. Voilà. On espère qu'il y aura du monde et que je pense que les salariés sont mobilisés.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Daniel Desselier, pour conclure ?
Oui, on espère aussi que la décision n'incombe pas seulement à M. Pichon, mais à l'ensemble des élus. Et on espère aussi que beaucoup d'élus ruraux qui se sentent peut-être loin des questions de prévention spécialisée, de prise en charge du handicap sensoriel, vont ouvrir leurs oreilles, ne pas être sur les voies du handicap eux-mêmes, pour pouvoir mieux comprendre, mieux apprécier et voter un collectif budgétaire qui va pouvoir permettre aux établissements de vivre.
Un grand merci à tous les deux, donc Brigitte Polia, monitrice éducatrice à l'Arnais Sagesse, et Daniel Desselier, donc du syndicat Sud Santé Sociaux, d'être venu nous parler de la situation de cet établissement Poitevin. Merci beaucoup.
Merci.
On continue en musique avec le Comorien Elias et son titre Locataire. Il a inventé son propre style, mélangeant donc ses influences comoriennes, et puis maintenant il est installé à Bordeaux, donc la France aussi l'inspire. Voici le titre, donc, Locataire.
Professionnel, je dirais.
Pulsar.
Ça, c'est bizarre.
Il est étoile en plus.
Et on accueille tout de suite un réalisateur poitevin, Jérôme Polydor. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Demain a lieu votre avant-première de documentaire Résidence en résistance. C'est au Tap Castille demain soir. Il faut réserver, c'est ce que vous étiez de dire en off, parce qu'il va y avoir du monde. C'est vrai que c'est un documentaire qui parle de la résidence Édith Augustin et de la crèche familiale qui est liée et donc qui avait mobilisé énormément à Poitiers pendant la réforme des retraites. Alors racontez-nous, vous, comment vous vous êtes retrouvé un petit peu dans le bain de cette lutte au sein de la résidence Édith Augustin.
Eh bien, au moment de l'annonce de la fermeture de la résidence Édith Augustin et de la crèche familiale, moi j'avais mon fils de 2 ans qui était accueilli par une des assistantes maternelles de la crèche familiale et ma mère qui était dans l'une des 3 autres résidences autonomie. Donc on était concernés directement en fait par ces annonces et au début on était très très on n'y a pas cru en fait parce qu'on avait du mal à concevoir qu'un service public aussi utile pour les résidents, enfin pour les habitants de Poitiers, soit menacé, soit fermé sèchement par une municipalité de gauche. Donc en fait, il y a d'abord un peu la stupeur et ensuite, ben, naturellement, moi, ma compagne, que vous aviez reçue d'ailleurs à ce micro même pour parler de la crèche familiale, on s'est engagé dans le mouvement pour lutter contre la fermeture donc de ces 2 services publics. Et moi, je me suis mis à faire des vidéos au début de l'occupation de la résidence, en fait, pour, disons, contrer les arguments budgétaires de la municipalité et du CCAS, pour les contrer en y opposant en fait, des visages humains, montrer que ce n'était pas des chiffres dont il était question, mais c'était des vies humaines, des gens qui avaient leurs habitudes dans cette résidence, des assistantes maternelles dont c'était le métier depuis 25 ans, et que voilà, on était dans du l'humain.
Est-ce que vous avez tout de suite pensé au documentaire? Parce qu'au départ, effectivement, ce sont des vidéos un peu courtes de rencontres.
Alors au début, j'ai tout de suite pensé à une série documentaire en fait d'épisodes que je faisais au fil de la lutte, c'est-à-dire que je tournais le jour même, je montais, je mettais en ligne sur YouTube ou sur les réseaux sociaux le jour même ou le lendemain. Et non, de faire un long film, ça s'est venu au fil de l'accumulation du matériel et puis aussi au moment où cette histoire, parce qu'en fait le film raconte une histoire où c'est devenu vraiment une histoire presque spectaculaire, c'est-à-dire avec des rebondissements, du suspense, puis des personnages forts que je retrouvais au fil des épisodes, que ce soit donc les militants de la CGT, que ce soit aussi les résidentes de la résidence autonomie. Voilà, enfin voilà, des personnages qui étaient forts, qui étaient très auxquels on s'attachait, en fait on s'est attaché, et puis voilà, cette espèce de lutte joyeuse en fait qui pour moi est quelque chose d'un qui donne de l'espoir.
Je vous propose d'écouter la bande annonce tout simplement.
Vous voyez là, moi, je suis superbe. On est bien parce que moi je me suis fait des amis et puis nous avons des animations tous les jours, n'est-ce pas?
Tant vous pouvez. Oui. J'inspire.
Comment vous avez vécu cette annonce de fermeture de...
Ça a été très difficile parce qu'il a fallu porter les résidents à bout de bras. Ça a été très très dur pour eux. L'annonce a été brutale.
On ne déménage pas du jour au lendemain comme ça.
Bien sûr.
Ah non, ça, je suis furieuse à cause de ça.
On est là, on est là.
René, toi, tu peux venir dormir la semaine prochaine, ça?
Oui.
Il faut que tu me dises quand.
Là, c'est une étape de plus, l'occupation. Mais c'est vraiment important qu'on soit solidaires. Alors, solidaires, collègues, syndicats, mais aussi avec les usagers du service public, avec les résidents et leurs familles, avec les citoyens du quartier, et peut-être même pas que de ce quartier. Et tant qu'on sera là, ils ne vireront pas nos aînés, d'accord? On sacrifie aussi nos enfants, ça veut dire qu'on supprime un mode de garde.
Assistants maternels qui dépendent du CCAS, mais on travaille à notre domicile. Voilà. Voilà. On garde 3 enfants au maximum.
On est là, même si mon vie va nous, on est là, pour vous.
Voilà, donc c'était la bande-annonce de ce documentaire Résidence en résistance que vous trouverez demain en avant-première au TAP Castille. Alors, c'était une aventure quand même très particulière. Il y avait carrément l'occupation de la résidence. Comment vous, vous l'avez vécu, ça ?
Mais c'est comment dire, on l'a vécu au jour le jour, c'est-à-dire qu'une occupation, c'est comment ça commence et on sait pas quand ça finit. Donc alors moi j'étais pas tous les soirs, tous les jours dedans. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le film, c'est que le film aussi j'ai récupéré, il y a une partie collective, c'est-à-dire que il y a d'autres gens qui ont filmé sur place et qui m'ont donné leurs images pour pouvoir nourrir le film. Donc moi je l'ai vécu en prenant des nouvelles tous les jours, en essayant de voir comment ça se passait, et puis en essayant aussi de ramener au cœur de la lutte la question de la crèche familiale, en fait, puisqu'effectivement le film montre une victoire, la victoire de la municipalité a renoncé à la fermeture de la résidence autonomie, a même annoncé la création d'une nouvelle résidence. Donc ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que, dans le même temps, la crèche familiale est en train de ferme là, puisque les dernières assistantes maternelles vont être licenciées au mois d'août.
Comment on fait pour avoir à la fois le regard de documentariste et être soi-même impliqué, puisque vous le disiez, votre maman, votre fils sont impliqués dans ces fermetures?
Bah, là, il y a des choses, il y a des moments, effectivement, il y a des réunions où j'étais en train de filmer et puis on commence à parler. Donc, j'ai posé la caméra. Il y a des réunions aussi. Ouais, parfois, je suis allé représenter le collectif des parents dans des réunions avec le CCS ou la mairie où je ne suis pas venu avec la caméra. Je pense que ça n'aurait pas été apprécié. Donc, voilà, effectivement, il faut arriver à dissocier les moments et les casquettes, voilà, et parfois les mélanger aussi, puisque on voit plusieurs fois dans le film où on m'interpelle, les gens de la CGT, Sylvain ou Vincent m'interpellent au sujet des questions de la lutte.
Et alors, vous allez faire cette avant-première demain à Poitiers. J'imagine, comment vous ressentez ça, de le montrer, ça y est, votre travail à tous ceux qui peut-être font partie de ce film?
Ah ben, ça va être un moment, je pense, assez fort, puisque on a déjà beaucoup de réservations. Il reste des places, hein, mais on a beaucoup de réservations. Et puis, dans la salle, il va y avoir une quinzaine de résidents qui vont venir de la résidence. Il va y avoir tous les gens qui ont participé à la lutte. Donc, oui, c'est toujours un moment fort de présenter un film. Mais alors là, ça va être un moment, effectivement, très, très fort, puisqu'il y a tout. Vraiment, personne ne l'a vu encore, donc je pense que ça va être un moment assez émouvant. Et puis, il y a aussi le contexte politique qui est autour, qui rajoute un peu de pression, puisque voilà, c'est un film qui montre une lutte sociale qui réussit. Donc, bon, pour moi, c'est aussi un signe d'espoir de montrer que quand les citoyens s'allient avec les syndicats, avec les résidents, avec les usagers du service public, on peut aller contre la fatalité des chiffres et des mesures de rigueur qui sont imposées par la politique.
C'est un documentaire militant aussi ?
C'est un documentaire militant, c'est un documentaire sur une lutte. Donc, et évidemment, c'est un documentaire. Donc, moi, mon point de vue, il est de l'intérieur de la lutte. Donc, militant, oui, pour les services publics. Mais c'est aussi, moi, je le conçois comme un film, disons, qui plus pédagogique au sens, c'est-à-dire que qui montre les coulisses de la lutte, en fait. C'est-à-dire, pour moi, j'espère que ce film pourra être un outil pour les gens en lutte aussi, pour s'inspirer. Et je trouve que il y a le travail de mémoire des luttes est quelque chose d'essentiel quand il se passe quelque chose. Laisser une trace d'un combat commun, c'est aussi nourrir les luttes à venir.
Et des luttes, il y en a effectivement à Poitiers et ailleurs. Ça vous donne, j'imagine, des envies et des idées de continuer à tourner sur ces sujets-là ?
Oui, bien sûr, ça me donne envie de continuer à faire des choses collectivement aussi. Voilà, je trouve que c'est une des forces de ce mouvement, c'est le collectif, c'est voir comment, quand on fait les choses collectivement ensemble, Mais il y a des choses qui émergent, qui nous dépassent, qui dépassent les idées qu'on avait chacun pour soi. Donc voilà, c'est pour moi, ça me pousse vers continuer à travailler, à essayer dans des prochains films aussi de réunir des acteurs qui, comme dans cette lutte, n'avaient pas forcément vocation à se retrouver ensemble.
Votre précédent film, c'était sur les services civiques, d'ailleurs. Oui. On peut peut-être le rappeler, c'était également à Poitiers. Hein.
Oui, c'était à Poitiers. Mais quand on est documentariste, on peut aller... Le travail de documentariste, c'est porter un regard sur le monde. Alors, ça peut être porter un regard sur le monde à l'autre bout de la planète. Ça peut aussi être porter un regard sur ce qui se passe dans son quotidien, au bas de chez soi, et porter ce regard, justement, au-delà. C'est créer de l'universel autour de situations particulières que l'on vit chacun.
Un grand merci à Jérôme Polidor, donc réalisateur de ce documentaire Résidence en résistance, qui sera en avant-première demain soir au Tab Castille. C'est à 20h30 et réservez vos places. Merci bien.
Merci à vous.
Demain, retrouvez bien sûr le Café de la Presse à 12h30 et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Et l'agenda est présenté par Isabelle.
À 18h, au Centre socioculturel de la Blaiserie à Poitiers, le festival À l'Ouest vous propose Olé, l'histoire d'un café et une aventure collective. Ce spectacle est proposé par la compagnie Gramophone et est ouvert à toutes et à tous à partir de 4 ans. L'entrée est gratuite et sans réservation. À 19h15, toujours à la Blaiserie, retrouvez l'atelier théâtre adulte avec Féminine. Amélie Loudin vous propose ce spectacle sur l'histoire d'un entraîneur de foot et des femmes qu'il forme à ce sport dans les années 70. C'est également gratuit et sans réservation. Au Bibliocafé, rue de la Cathédrale, c'est apéro tricot à 18h. Fans de tricot, crochet et broderie, retrouvez d'autres passionnés autour d'une boisson. On part du côté de Montmorillon. La stèle du chevalier de la Légion d'honneur et compagnon de la Libération, Bernard Arène, sera inaugurée ce soir. L'accès est libre. Rendez-vous sur le parvis de l'église Notre-Dame à 18h30. De 18h30 à 21h à Cobalt, à Poitiers, participez à une conférence-atelier organisée par la communauté All for Trees, animée par Olivier Van Strelen. Cet événement est ouvert à tous, alors n'hésitez pas si vous voulez en apprendre plus sur les enjeux liés à la déforestation et à la préservation des forêts. Ça se passe à Cobalt, rue Victor Hugo. À partir de 19h, c'est la soirée d'ouverture du PocoFest au local à Poitiers. Du 13 au 16 juin, les amatrices et amateurs de musique curieuse pourront se retrouver autour de rencontres inédites, éphémères et pluridisciplinaires. MC Chevreuil sera là à partir de 22h pour vous faire vivre une expérience dansante et musicale entre soirée disco et magie du monde animal.
Merci beaucoup Isabelle, on te retrouve dès demain 8h pour Espace Matin. Sur Pulsar à 19h, c'est Diva, 20h Metal Fury, 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique. On se quitte avec Samy Galbi. Il module les musiques populaires et folkloriques nord-africaines en leur donnant une texture pop et une atmosphère club. Voici le titre d'Akshi Hani. Bon après-midi, à demain. Hey, سامي قال لي عدل
de m'aimer, t'es...